Bienvenue dans un monde où il fait bon vivre, où les pieds dans l'eau, la tête au soleil, mais juste ce qu'il faut, vous n'auriez qu'à tendre la main pour ramasser. Ici, une mangue, là, une noix de coco, et oh, une dorade qui vous chatouille les pieds, et tiens, un marcassin qui vient vous faire un câlin. Maman sanglier n'est pas loin, elle vous surveille pas bien de manger le sanglier. Prenez plutôt ce bar qui vous fait de l'œil là-bas, ou alors cette barre chocolatée au bout de la branche qui vous tend les bras. Et... Pardon, j'ai ripé. Ce monde-là, évidemment, n'existe pas ou plus. La barre chocolatée dans les arbres, c'était juste pour voir si vous suiviez, hein, parce que les arbres, en fait, on les a coupés pour pouvoir en fabriquer des barres chocolatées. On en a coupé d'autres pour pouvoir les emballer un par un et puis même des forêts entières. Alors évidemment, cette planète qui fut la nôtre a fini par changer. Température en hausse, niveau de l'eau en baisse. On y met un peu moins les pieds tellement elle est polluée par endroits. Le soleil, lui, a fini par nous cramer à force de nous aller. Quant au marcassin, comment vous dire, il est parti ? Il peut revenir. Oui, ce monde dans lequel on vit, s'il a couru à sa perte, s'il a joué avec le feu, il peut renaître pour peu qu'il accepte de se réinventer. Inventer d'autres façons de vivre, d'autres façons de consommer. Nous sommes à un tournant, nous le savons. La suite est entre nos mains. L'horizon peut redevenir tout bleu. Alors ce matin, bienvenue dans la planète bleue.
France Inter. Dans quel monde on vit ? Julia Foyce.
On s'envole ce matin, on décolle, on prend le large avec cette voix que peut-être les plus mélomanes d'entre vous reconnaissent. C'est celle de la soprano Barbara Hendricks qui chante les lits de malheur sur son dernier album et que nous avons surtout la joie d'avoir en ligne maintenant avec nous. Bonjour Barbara Hendricks.
Bonjour Julia.
Avant de partir pour les îles Fidji et la Réunion, avec vous on va faire un petit détour par le Lot-et-Garonne où s'ouvre ce matin à Couture le festival du journalisme vivant dont nous sommes partenaires et dont vous êtes la marraine et l'invitée d'honneur. C'était important pour vous de vous associer à un tel événement ?
Oui, d'abord j'étais invitée l'année passée par mon amie Laurence Corona avec qui je travaillais quand on était aux arènes elle m'a expliqué un peu son idée de ce festival que je trouvais génial. Mais l'année passée, j'étais pas libre. J'ai accepté tout de suite de venir cette année et aussi d'être marraine parce que je trouve que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de très important. Surtout que le média, le rôle de média aujourd'hui dans notre démocratie est très, très important et un peu menacé un peu partout dans le monde. Je crois que c'est pas seulement les journalistes qui ont la responsabilité de garder ce pilier de la démocratie debout, mais aussi nous les citoyens de vraiment soutenir les journalistes les institutions qui soutiennent aussi eux la démocratie pour nous. Et bon, pour cette raison, je suis très curieuse, je ne sais pas exactement, je vais flâner pendant le festival entre les ateliers parce qu'il a cette thématique. Le défi de l'eau, informé à l'heure de la post-vérité, très important. Le laboratoire allemand, la rue prend la parole, réinventant le travail et vivre avec les animaux. Et bon, je serai comme les milliers d'autres personnes, des familles qui m'ont flâné.
Alors, écouter, vous n'allez pas que...
D'être inspiré par tous ces ateliers.
Vous n'allez pas que flâner, Barbara Hendricks, vous allez participer aussi à un débat sur le phénomène migratoire. Vous travaillez depuis plus de 30 ans avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés sur cette question-là. Pourquoi est-ce qu'elle vous tient particulièrement à cœur ?
Parce que je crois que la cause des réfugiés, d'abord, c'est quelque chose qui m'a choisi un peu parce que c'est la chair qui m'a demandé il y a plus que 30 ans de venir travailler comme ambassadeur de bonne volonté. Ce travail représente pour moi vraiment ce que je crois qui est aussi très important dans notre société, c'est de défendre et promouvoir les droits humains pour tout le monde. Et dans les questions de réfugiés, on trouve toujours des problèmes de bafouement des droits humains. Mmh. Et ça me tient au cœur parce que je suis une citoyenne comme tout le monde et j'essaie de faire ma part.
Et vous avez toujours été une artiste engagée. Est-ce que quand on chante, Barbara Hendricks, on s'engage d'une certaine façon ? Et on engage quoi ?
L'artiste a un engagement pour son art, pour le talent qui est, en tout cas pour mon cas, le talent que j'ai reçu, mais aussi cette idée de nous tu as de tisser un lien avec d'autres êtres humains, je dis, parce que je crois que là où on entend la musique, on vibre avec la musique, c'est le même endroit d'où sort cette déclaration universelle des droits humains. Et je crois que dans ces moments, on se rend compte que nous sommes les mêmes, que l'autre est mon frère, ma sœur, mon enfant, et que nous sommes dans ce bateau qui est cette planète ensemble, et on va survivre ensemble ou couler ensemble. Mais je crois que moi, je suis très positive parce que je suis grand-mère et j'ai deux anges, mes petits-enfants, et pour eux, j'ai l'espoir qu'on va réussir. Comme Martin Luther King avait dit, l'arc de l'histoire est long, mais ça va toujours dans la direction de la justice. Et pour cette raison, je reste positive.
Merci.
Et inspirée.
Merci infiniment, Barbara Hendricks, pour ce bol d'optimisme ce matin. Je rappelle que vous profitez de votre passage en France pour chanter dimanche à 19h au Festival de la Rock d'Anteron.
Exactement. Concert de blues et gospel inspiré par le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis mené par Martin Luther King.
Eh bien ça, si ça ne donne pas envie à tout le monde de foncer à la Rock d'Anteron ce week-end, moi je ne m'y connais pas. Merci Barbara Hendricks.
On
retrouve le programme complet des ateliers couture sur ce site www.les-ateliers-de-couture.fr, dont on mettra bien évidemment le lien sur franceinter.fr à la page de Dans quel monde on vit. Mais alors là, attention, ouvrez grand vos oreilles, c'est une exclusivité mondiale. France Inter vous fait découvrir aujourd'hui 5 titres du nouvel album d'Arcade Fire. Le tout premier, c'est maintenant et c'est Peter Pan. L'album d'Arcade Fire, Everything Now, sort demain. C'est un partenariat France Inter. D'autres titres à découvrir toute la journée sur notre antenne et donc en exclusivité. Elle est pas belle la vie, hein ? Alors, si, dites-le nous, envoyez-nous vos bonnes ondes sur cette adresse mail dans quel monde on vit, @radiofrance.com, sur les réseaux sociaux. Vous êtes évidemment les bienvenus aussi avec le hashtag dans quel monde on vit. Vous nous retrouvez sur Twitter comme sur Instagram, où vous verrez toutes les photos des coulisses de l'émission. Bref, une immersion dans l'immersion. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on y va et on va loin ce matin dans l'océan Indien. Un pied à Fidji, un autre à La Réunion. Je sais, on fait un peu le grand écart, mais on est entre deux bonnes mains ou avec un bon pilote. Mourad Aïtabouche, bonjour.
Bonjour Julia.
Vous êtes réalisateur, producteur, vous pilotez en l'occurrence une série documentaire pour France 5, Saltan pour la planète, qui fête ses 10 ans là maintenant. Alors bravo, hein, bon anniversaire.
Merci.
Déjà. Vous et vos confrères avez sillonné, filmé le monde entier pour en ramener 47 films, dont l'idée serait de montrer à la fois l'impact du réchauffement climatique sur les populations, mais aussi comment elles s'adaptent, comment elles luttent, comment elles inventent, c'est ça ?
C'est exactement ça. L'idée, c'est d'aller les écouter, parce que le plus souvent, je parle toujours de l'effet papillon, c'est-à-dire que nous, les pays industrialisés, on pollue et on se rend pas compte des conséquences. Donc moi, je vais de l'autre côté du monde, de la planète, au Fidji, à La Réunion, pour voir en fait comment finalement cet effet papillon a des conséquences sur des populations qui vivaient jusque-là heureuses, comme vous le disiez, les mangues, les cocotiers, les bars, et que de bons moments. Quoi.
Et en même temps, ce que vous montrez dans vos films, c'est les formidables ressources de l'humain, parce que malgré ça...
Capacité de résilience étonnante. Ouais. Moi, c'est ce que je préfère dans ces voyages, en fait, c'est de rencontrer ces gens qui finalement sont soumis à des conditions climatiques, la sécheresse, les inondations, et qui survivent et qui ont le sourire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'imaginer que des conditions, des fléaux qui s'abattent, au Fidji en l'occurrence, un cyclone de catégorie 5, il n'y a pas pire. Et les gens sont là et vivent, survivent et voilà. Et la vie reprend son cours. C'est un peu comme en Algérie, pendant les pires moments en Algérie. Je fais juste un petit aparté là-dessus. Mais c'est vrai que tous les jours, on envoyait dans les journaux télévisés des images terribles. Et à côté de ça, on faisait la fête, quoi.
Alors, en l'occurrence, vous êtes à l'origine reporter de guerre. Vous avez couvert des conflits en Bosnie, en Afghanistan, en Somalie, etc. Votre nouvelle zone de combat, elle est donc planétaire.
En fait, pour ne rien vous cacher...
Dites-moi tout.
Non, la guerre ou les conflits aujourd'hui sont des sujets très anxiogènes. Ouais. Et la France, les Français ont besoin de feel good. Ouais. Ils ont besoin de sujets qui les font rêver, qui les font partir. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de couvrir les conflits, les post-conflits. Le dernier sujet que j'ai fait, c'était en Irak. Et je vais vous faire une confidence. C'était en 2013 et le reportage n'est jamais passé d'envoyer spécial. Il a été trappé, ce qui est terrible. Et de ce jour, je me suis dit, tous ces risques pour des gens qui finalement peuvent prendre le film et le mettre à la poubelle.
Et du coup, on va partir avec vous, grâce à vous, aux îles Fidji, un petit coin de paradis à première vue. Un archipel de 522 îles au nord de la Nouvelle-Zélande, à l'est de l'Australie. 900 000 habitants, pas plus. Et parmi elles, cette femme que vous avez photographiée. C'est la photo que vous avez choisi de partager avec nous ce matin. Pourquoi ? Qui est-elle ?
C'est une femme qui vit à Koroh. Koroh, c'est une île de 4000 habitants, coupée du monde, parce qu'il n'y a qu'un ferry qui vient une fois par semaine dans le meilleur des cas, un avion dans le meilleur des cas une fois tous les 15 jours, et il y a ce sourire, ces sourires. Et j'adore faire de la photo. En fait,
qu'est-ce qu'elle raconte cette photo ? Il y a un sourire et en même temps, on voit bien autour d'elle, elle se tient dans l'embrasure d'une fenêtre, on voit bien que les murs autour d'elle sont dans un état...
C'est la chanson de Charles Aznavour, « La misère est moins pénible au soleil ». Mais ces gens-là ont...
Et c'est vrai, la misère est moins pénible au soleil ?
Non, je crois pas. Je crois pas. Non, en revanche... ces gens-là, moi, m'émeuvent à chaque fois parce qu'ils ont toujours le sourire. C'est incroyable. C'est quand on saisit un moment comme ça.
C'est la capacité de résilience dont vous parliez.
C'est cette capacité-là. C'est cette leçon de courage quotidienne. C'est-à-dire que moi, j'aime sortir de ma zone de confort. C'est pour ça que je voyage. Je suis toujours dans l'action, dans le mouvement. J'adore ça parce qu'en fait.
Vous voulez bien rester jusqu'à 10 heures ou vous partiez dans 2 minutes?
Non, je vais rester. Non, on voyage avec vous. J'écoute vos émissions. J'adore parce qu'on voyage énormément. Mais non, mais ce qui est extraordinaire, c'est ces sourires. C'est ces gens qui sont capables de transmettre des choses qu'en France, on a du mal à saisir.
Comme.
Vous disiez tout à l'heure, elle est pas belle la vie. C'est le nom de l'agence que j'ai créée il y a presque 20 ans. Elle est pas belle la vie. C'était en fait ce que je signais lorsque je partais en Afghanistan, en Somalie et ailleurs, pour mes amis qui se plaignaient toujours voilà, des vicissitudes de la vie quotidienne à Paris, en France, etc. Et je leur disais, mais
vous
vous rendez pas
compte. C'est pénible, hein, Mourad, je suis désolée.
Et je leur disais, elle est pas belle la vie, parce qu'il y a toujours comme ça en Afghanistan, en Somalie, en zone de guerre ou en Algérie, au pire moment, dans un silence assourdissant, où des journalistes étaient tués, ou des intellectuels et des gens, des citoyens étaient tués, un silence assourdissant. Personne n'entendait ses cris, et c'était terrible, quoi.
Et en même temps, la vie, elle surgit, elle surgit.
Exactement.
Elle surgit d'un petit peu partout. S'il y avait une odeur qui nous aiderait à vous suivre là au Fidji, ce serait laquelle ?
Je sais pas, l'odeur de la liberté.
Ouais.
Non, c'est un parfum. Oui, c'est les mangues. J'adore les mangues. Pour ne rien vous cacher, j'ai une amie en Inde qui m'envoie des mangues.
Est-ce que vous allez dire j'ai une amie mangue ? Je ne sais pas pourquoi. Mais...
vous savez qu'il y a plus de 2000 variétés différentes de mangue, avec des goûts à chaque fois différents. Et en Inde, il y en a à peu près 500. En Birmanie, enfin au Myanmar maintenant, il y en a à peu près 750. J'ai dû en goûter, allez, 200 et je suis très à l'aise avec ce chiffre.
Tellement heureux d'en parler qu'on y croit chiffre.
Mais imaginez ce qu'il y a derrière une mangue.
Il y a quoi derrière une mangue ?
Il y a un imaginaire, il y a un imaginaire. Il y a des gens qui le matin se réveillent, comme au Fidji, ils se réveillent le matin et ils vont prendre des crabes au petit déjeuner. Et ben voilà, au menu, c'est des crabes. Ensuite, ils sortent dans l'arbre, il y a des mangues. Hop, ils prennent leurs mangues. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je devais y rester 2 jours, je suis resté 5 jours. Parce que les gens sont juste, ouais, accueillant, chaleureux, puis il nous raconte une autre vie qui est loin de la nôtre, hélas.
Alors, il nous manque juste une toute petite chose, c'est la bande-son qui va nous accompagner ce matin, un chant traditionnel fidjien que vous avez choisi, on l'écoute. Mourad Aïtabouch, évidemment, il y a ce décor qu'on vient de planter ensemble, qui est légèrement paradisiaque hein, sur les bords, mais en même temps, il y a l'envers du décor. Dans votre film, vous parlez d'un acharnement climatique capable de transformer ce paradis en paysage dantesque. Les images sont effectivement assez saisissantes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est aussi Fidji, côté pile quoi, côté...
On va le dire aussi à tous ces touristes qui payent entre 3 000, 5 000, 10 000 euros pour des ghettos paradisiaques. On va leur dire qu'en fait, sortir en fait, des villas, les pieds dans l'eau, c'est aller à la rencontre d'un peuple extraordinaire, mais surtout qui souffre. Quand je parlais tout à l'heure de l'île de Koro, ils ont subi, il y a un an et demi, un cyclone de catégorie 5. Catégorie 5, c'est 300 km/h de vent, c'est des vagues de 15, 20 mètres, comme ils nous l'ont raconté. Et quand on est arrivé sur l'île de Koro, en fait, on était sur le sommet d'une colline, et j'ai pris une photo. Et en fait, on avait l'impression d'un endroit paradisiaque. Et quand, en fait, après, j'ai zoomé sur la photo, je me suis rendu compte que c'était une zone de guerre. Et ça me ramenait quelques années en arrière. Parce qu'en fait, 10 mois après le passage du cyclone, rien n'avait changé. D'où le titre « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Parce qu'en fait, même les autorités qui sont à Suva, dans la capitale, se préoccupent assez peu de ces populations-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne payent ni impôts, ils ne sont assujettis à aucune taxe, rien.
C'est aux locaux de se débrouiller, quoi.
C'est ça.
Voilà, c'est à eux de prendre leur destin en main face à ces catastrophes. Vous le racontez dans votre film. Les habitants s'adaptent, changent, bougent, ils se déplacent aussi. On écoute John, chef de village sur Mali Island. Il nous montre les dégâts produits sur sa maison située en bord de mer. Écoutez.
Ici, vous pouvez voir les dégâts causés par les vagues et la houle qui frappent régulièrement la maison. Les murs sont gravement endommagés. Par endroits, ils ont été arrachés. Regardez en bas. Il ne reste presque plus rien. La famille qui a vécu dans cette maison a dû quitter les lieux car la situation devenait vraiment impossible avec la montée des eaux. Toute la famille est partie à Suva, la capitale.
Alors, le paradoxe, c'est que les habitants des Fidji eux-mêmes sont parmi les plus faibles producteurs de CO2 de la planète. Donc, en fait, ils ne font que subir les dommages des autres. C'est ça ?
L'effet papillon, c'est exactement ça. Et ils en prennent conscience. Il y a une séquence dans une salle de classe où, en fait, on peut être stupéfait par le niveau de connaissance des enfants sur les effets des changements climatiques. D'où ça vient ? Pourquoi ? On les sensibilise, on leur explique.
Ça a été aussi le premier pays à ratifier
exactement.
L'accord de Paris.
Et c'est le pays qui va recevoir le prochain sommet de la Terre. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les infrastructures pour recevoir tous les délégués du monde. Et donc, ça va être délocalisé à Bonn, en Allemagne.
Mon Dieu, de Fidji à Bonn, il y a comme un gap.
Alors, grand écart.
On va donner un grand coup de volant à gauche, ou si vous préférez, on fait cap sur l'ouest. Hein. Maintenant, destination La Réunion. Ouais, on est comme ça ce matin. On fait comme on veut, on va où on veut. C'est ce qu'on appelle la liberté, voilà.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? From man's right flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, 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 freedom. Hold on to me, don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is king, last name is dumb. 'Cause you still believe in everyone. We are from heat, the electric one, just to shock you, see, he left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man, are made of the same things.
Pharrell Williams, l'homme au chapeau, le zébulon gesticulant, est aussi un artiste engagé. Ce tube planétaire Freedom est dédié à ceux que le climat, que les guerres conduisent sur les routes de l'exil. Et c'est Mister Joub, notre programmateur musical, qui nous le rappelle. À la technique ce matin, Raphaël Rousseau, à la réalisation Marion Lelay, à la coordination et la préparation de cette émission, la fine équipe constituée de Valentin Pérez, Mégane Fleury, Elisa Bondarenko et Rose Bernard sur les réseaux sociaux.
Dans quel monde on vit ? Sur France Inter.
La Réunion, un mariage explosif entre l'eau et le feu. Une île intense et un cadre de vie spectaculaire. Les pieds dans l'eau avec ses plages de sable volcanique ou son lagon et ses eaux qui se déclinent en 50 nuances de bleu et de vert.
Les paysages sont à couper le souffle dans ce documentaire sur La Réunion que vous avez réalisé, Mourad Aïtabouche. Qu'est-ce que vous êtes dit la première fois que vous avez posé le pied sur cette île, la première fois que vous l'avez vue ?
Qu'il fallait absolument rencontrer les gens et essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un constat. Et essayer d'aller voir s'il n'y avait pas des bonnes âmes, des gens qui étaient actifs. qui faisait en sorte que, bah justement, sur une île qui est aussi belle, aussi vertueuse, qu'elle soit encore plus vertueuse.
Alors, on est là à 10 000 km de la métropole, à l'est de l'Afrique. C'est un joyau, la nature est luxuriante. Hein. 40% de l'île classée au patrimoine mondial de l'humanité. Elle est belle, vous le dites, cette île belle mais fragile. Avec, je vous cite, une porte vers le paradis sur Terre, une autre vers l'enfer. Le paradis, je pense qu'on voit bien. L'enfer, il est où? Il est fait de quoi à La Réunion?
Cyclone. D'ailleurs, le sous-préfet, à un moment, le dit dans le film, ils ont pratiquement tous les cataclysmes, sauf les avalanches. Et encore, parfois, avec le piton des neiges, ils peuvent avoir quelques avalanches. Ils ont tous les fléaux. Et en fait, c'est aussi ce qui fait la beauté de cette île, c'est cette vulnérabilité. C'est toujours cette fragilité qui fait qu'on trouve ça beau, que c'est comme l'art. C'est parce que c'est fragile, éphémère, que parfois c'est magnifique.
Non, on voit ces routes éventrées, on voit ces maisons fissurées, on voit ces portails arrachés, ceux aussi des paysages désolés que vous avez traversés. Parce que La Réunion est située sur la route des cyclones, mais pas que, il n'y a pas que ça, c'est pas la seule raison. C'est aussi la main de l'homme.
Hélas. Mais partout, l'influence humaine, malheureusement, il y a eu des architectes, il y a eu des grands hommes qui ont su façonner le monde, qui ont su lui donner une autre dimension. Et il y a hélas le pendant de ces hommes-là, qui hélas, parfois... Mais moi, je veux pas blâmer, enfin, je suis pas Artus Bertrand, je suis pas là pour blâmer les gens qui auraient construit...
Déjà, vous avez pas de moustache, donc je vous ai reconnu, c'est pas vous.
Je suis pas là pour blâmer les gens qui construisent, par exemple, les pieds dans l'eau. Il y a 30 ans ou 20 ans, on ne savait pas que le niveau des océans montait, on ne savait pas... Heureusement, les experts travaillent comme des fous. 97% aujourd'hui des experts sont convaincus que l'homme a une influence sur les changements climatiques. 97%. À part Donald Trump, Claude Allègre et quelques illuminés imposteurs qui... Non, c'est des postures juste pour parler et faire parler, mais
effectivement, non. La Réunion elle-même en a pris conscience parce que elle, comme les Fidji, ils se laissent pas abattre, ils s'attaquent au contraire à un défi de taille, ils veulent redevenir l'île verte que c'était jusqu'en 82 avant l'arrivée des énergies fossiles. Mais ça veut dire quoi concrètement être une île verte? Est-ce que c'est juste un label pour faire joli ou est-ce que ça veut dire plein de choses?
Être une île verte, c'est être indépendant des énergies fossiles. Ouais. Il faut savoir que dans les années 80, La Réunion n'avait ni pétrole, ni charbon ou tellement peu que de toute façon... Pourquoi? Parce qu'en fait, la démographie n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. On a 1 million d'habitants aujourd'hui sur cette île. Et il y a la marmitari. Vous connaissez la marmitari?
Non, qu'est-ce que c'est?
C'est chaque soir vers 19h, à la même heure, tous les réunionnais rentrent à la maison et font chauffer leur riz. Et la marmitari, c'est un produit chinois qui est un énorme consommateur d'énergie. Et il y a un pic à ce moment-là. Ah oui. Et EDF a une vraie, comment dire, un défi à relever. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer les mentalités à La Réunion, qu'on leur dise... pas arrêter de cette marmitari. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Réunionnais, dans les années 70-80, ils étaient très loin de la société de consommation qu'on connaît en métropole. Et du jour au lendemain, ils se sont équipés, suréquipés. Ouais. Au port, on avait 10 000 containers qui venaient. Aujourd'hui, on a 3 millions de containers. C'est-à-dire qu'ils surconsomment. Et forcément, l'énergie... est consommé en même temps. Quoi.
Et alors justement, il y en a certains, de plus en plus nombreux, qui prennent conscience de ce que vous dites là, Mourad Aïtabouch. Il y en a qui regardent droit devant, il y a des pionniers. Oh, il y en a un dans ce studio, voilà, qui vient nous rejoindre grâce à vous, Mourad Aïtabouch. Éric Scotto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur d'Aquio, vous êtes le premier producteur d'énergie propre en France. Votre entreprise se situe au centre de détention de Barzour, près de la ville du port. On voit la caméra de Mourad se glisser chez vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on y voit? Qu'est-ce qui saute aux yeux en premier lieu quand on arrive là-bas?
Alors déjà, effectivement, l'île de La Réunion, c'est une île et les îles sont les territoires les plus fragiles, les plus impactés, sont en première ligne du réchauffement climatique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les défis. Et c'est vrai qu'en tant que producteur d'énergie renouvelable, alors on est premier producteur indépendant, hein, on n'est pas de la taille d'EDF.
J'ai oublié le mot indépendant, c'est vrai que c'est important comme mot. J'avoue.
Il n'y a pas d'égo du tout.
Pas.
Non, non. Voilà, on est une petite ETI française, néanmoins spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Et lorsqu'on est arrivé à La Réunion, ce qui nous a frappé, c'est effectivement cette population qui grandit, 850 000 habitants aujourd'hui, bientôt 1 million, un territoire fini. Et donc là, vous êtes face à une problématique pour une île de ce type, c'est qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit choisir justement de répondre aux besoins énergétiques et d'aller de tendre vers l'indépendance énergétique grâce aux énergies renouvelables. Mais parallèlement, il faut quand même se nourrir. Et donc, il y a aussi l'indépendance alimentaire.
Oui.
On parlait de cyclone, il faut bien manger. Donc, lorsqu'on est coupé du monde, il faut bien continuer à manger. Donc, nous, ce qui
et
nous
donc,
a.
Accuo, c'est quoi?
Accuo, c'est en fait une société responsable qui s'aperçoit qu'il y a un conflit d'usage sur les terres et donc qui a cherché à faire différemment des autres. Ce qu'on a voulu faire, c'est réconcilier en fait sur un même espace production d'énergie renouvelable et production alimentaire, tout en répondant à la problématique de la multiplicité des cyclones et des tempêtes tropicales. Donc, on a inventé un système de serre anticyclonique,
ouais,
photovoltaïque.
Avec une forêt de panneaux solaires, donc il y en a 27 000.
Alors on a plusieurs projets à La Réunion,
ouais,
et on en a un qui est mythique, hein, que tout le monde visite, qui est le projet de la prison.
Un mythique, carrément.
Ouais, bah, celui-là,
on est au niveau du mythique. Allez, hop, on y va.
Non, mais il faut le dire, je crois qu'il y a
un moment donné, j'aurais pu la faire.
C'est notre laboratoire. Hein. C'est notre laboratoire, donc aujourd'hui, si on est présent en Indonésie, si on est présent dans le Pacifique et sur toutes les îles du monde, c'est grâce à La Réunion, grâce à ce laboratoire. Donc en fait, dans cette prison, vous aviez un no man's land, vous aviez de l'espace, on s'est dit, on va occuper cet espace autour de la prison.
Ouais.
On a créé des serres anticycloniques, photovoltaïques, dans lesquels on a mis au travail et on a permis de la réinsertion de détenus autour de la permaculture et de l'agriculture bio pour pouvoir manger bio sur un circuit court. Donc vous voyez, sur un même espace, on concilie tout un tas d'activités. Et pourquoi? Parce qu'une entreprise aujourd'hui, elle doit voir plus loin. On doit réinscrire le long terme, hein, dans la vision
et
de l'entreprise.
C'est assez saisissant quand on le voit, les images de votre film, Mourad Aïtabou, c'est qu'on arrive à une zone complètement aride, tout autour de ce centre de détention. Et tout à coup, voilà, il y a cette forêt de panneaux solaires. Et puis, c'est beau, hein, il y a ces jardins, ces serres, ces potagers. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous êtes arrivé sur place?
En fait, je connaissais, puisqu'on se connaît avec Eric depuis très longtemps, et c'était...
Oui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait étranger l'un à l'autre. Hein.
Non, on a joué au football ensemble, pour tout
c'est
vous dire. Et oui, mais le terrain de football, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire.
Je crois que c'est pas loin. Je crois que la première fois qu'on a joué ensemble, c'était de l'autre côté, là.
L'autre côté de la maison, là.
Non, mais parce que là, on parle beaucoup de moi, mais... Il y a une équipe derrière dans l'agence, hein, je tiens à le préciser. Et c'est pour ça que je parle de football, parce que moi j'ai appris la notion d'équipe grâce au football, et c'est ça qui est vachement important. Donc ben voilà, il y a toute une équipe qui est derrière, et heureusement.
Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous êtes arrivé?
Mais c'est extraordinaire, parce que pour ne rien vous cacher, le plus souvent, quand on fait du photovoltaïque, c'est juste pour des questions financières. C'est-à-dire que ceux qui investissaient à une époque, dans les dom-toms, il y avait de la défiscalisation. Là, il y a un projet qui, pour moi, est trois en un. C'est-à-dire qu'à la fois, on produit l'énergie propre, on fait de la permaculture, c'est-à-dire de l'agriculture biologique, on revient aussi sur les anciens légumes, tout ce qu'on a un peu oublié, sur place, etc. Et surtout, on forme des détenus pour la réinsertion. Voilà, et je trouve que si on devait un jour dire à Donald Trump et à tous ceux qui sont hostiles justement à l'énergie propre, il faut leur dire, ben voilà, on peut être intelligent et créer de l'emploi, parce que je ne sais pas aujourd'hui combien Eric a d'employés, mais c'est énorme ce qu'il est en train de faire.
Alors justement, on va y aller, on va suivre votre caméra, Mourad Aïtabou, et on vous retrouve, Eric Scotto, devant l'une de vos serres avec l'un de vos employés.
On a voulu donner un côté esthétique, en plus du côté pratique de nos cultures. Donc on a fait des buttes de façon circulaire et on a multiplié les cultures, on les a mis entre elles afin qu'ils puissent se défendre en fait, des insectes et autres chenilles. Donc on a mis de la salade, de la betterave, des poireaux, de la courgette, de la blette, du chourave.
C'est super émouvant de voir la concrétisation de ce travail, de ces idées, parce qu'on ne nous a pas forcément aidés au départ et ça a été compliqué les négociations pour pouvoir en arriver là. Et là, pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement de ce rêve. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est plus un rêve, hein. c'est une réalité. Hein.
Vous êtes toujours ému, Eric Scotto, quand vous êtes là-bas?
Ah bah, toujours. D'ailleurs, la première fois que j'étais dans ce centre pénitentiaire et que j'ai vu les détenus et le projet qu'on leur proposait, je vous assure qu'il y avait pas mal de journalistes qui étaient là ce jour-là, mais plus en phase exploratoire, et tout le monde avait les larmes aux yeux. Quoi. C'était... Parce que c'est fort, c'est des moments intenses,
Mourad, vous dites que ce centre, c'est une vitrine pour les ambitions planétaires, pour des ambitions planétaires. Est-ce que le futur, on l'a là sous les yeux? Enfin, ça pourrait être un futur.
Clairement, d'ailleurs, Eric en parlait tout à l'heure lorsqu'il disait que ça faisait des petits un peu partout dans le monde, en Indonésie ou d'où je reviens.
Attendez, 57% de croissance en 2015, j'ai lu.
Non, l'entreprise va très bien, mais il faut pas opposer profit et énergie renouvelable. Ce qui est fondamental aujourd'hui, pourquoi les énergies renouvelables aujourd'hui se développent de façon inexorable, c'est que depuis 2013, on a prouvé que c'était le moyen le moins cher de produire de l'énergie. On est beaucoup plus compétitif que le fossile, surtout sur ces terrains.
Mais surtout, pardon Eric, éloignés. Mais leur force, c'est qu'ils ont réussi à créer des capacités de stockage.
Oui.
Ça, c'est quand même un élément essentiel.
La prison, en fait, c'est une première technologique mondiale.
La prison est une bonne capacité de stockage, on est d'accord.
Il y avait de la place.
Je vois l'idée.
Non, mais le fait qu'il y ait eu de la place, on a pu marier production photovoltaïque et stockage. Parce que le vrai défi, c'est ça. Et donc, la digitalisation aujourd'hui.
C'est qu'il n'y a pas de soleil tout le temps et que du coup,
exactement. Donc, il faut compenser le passage du nuage. Et donc, l'idée, ça a été d'associer panneaux photovoltaïques et stockage. C'était une grande première mondiale à l'époque. Donc, vous voyez, dans une petite île française. Un exemple, et aujourd'hui, tout le monde parle de stockage. Tout le monde a compris qu'en fait, c'était la pierre angulaire de l'évolution et de l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans le réseau énergétique. Donc à La Réunion, on est à plus de 50% d'énergie renouvelable, et on tend vers une autonomie énergétique d'ici 2030.
Et donc vous allez continuer à croître et à prospérer, en tout cas on vous le souhaite. Merci infiniment,
Eric Scotto,
de nous avoir amené un peu de réunion et d'espoir aussi dans ce studio. Mourad Aïtabouch, on va continuer le voyage avec vous. Le texte que vous avez choisi est un extrait de Blaise Cendrars, Une nuit dans la forêt, et il est lu par Eric Oswald.
Si je me déplace sans raison, c'est pour perdre pied. Je puis fraterniser avec n'importe quel peuple de la Terre, communier avec n'importe quel être humain. Du civilisé le plus aigu au plus obtus des sauvages. Partager leurs idées, adopter leurs préjugés. Tout a un retentissement en nous. Je suis aussi superstitieux qu'un pygmée, qu'un bororo, et aussi rempli de refoulement que le premier psychanalyste venu. Moi, l'homme le plus libre du monde, je reconnais que l'on est toujours lié par quelque chose, et que la liberté... L'indépendance n'existe pas. Et je me méprise autant que je peux, tout en me réjouissant de mon impuissance. L'action seule libère. Elle dénoue tout. Tout est vanité.
Mais tellement pardon à Denis Chessou. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Eric Oswald. Peut-être parce que la belle voix d'Eric Oswald nous accompagne régulièrement sur ses lectures. Et là, paf, une sorte d'habitude. Donc c'était bien Denis Chessou qui disait ce texte de Blaise Cendrars, Une nuit dans la forêt. Pourquoi ce texte-là, Mourad Aïtabouch?
D'abord parce que Blaise Cendrars fait partie de ces écrivains voyageurs que j'adore, comme Jack London, comme Kerouac, comme John Fante, enfin tous ces gens qui ont un peu nourri mon imaginaire aussi, mais aussi parce que ce texte, quand il parle de liberté, on sait pertinemment, moi je me sens libre, c'est mon état d'esprit, je suis libre. Le problème, c'est que je ne suis pas toujours libre, parce que si j'étais libre, aujourd'hui, je ferais pas seulement ce type de film. Je reviendrai aussi sur les terrains que j'ai aimés auparavant. Et c'est vrai que... Ouais,
Cendrars dit, on est toujours lié par quelque chose. Vous, vous êtes lié par quoi?
Je suis aliéné par cette envie de liberté.
un peu, ouais, quand même.
Ouais, clairement. Non, mais en fait, il dit surtout l'action. Il parle d'action, le mouvement, le voyage. Et je trouve que c'est peut-être la meilleure façon pour nous d'aimer les autres. Et moi, j'ai créé des collectifs contre les discriminations. J'ai créé un club qui s'appelle le 21e siècle. Et j'ai essayé justement de montrer aux Français que, en voyageant, on se rend compte à quel point on est tous des citoyens du monde. Ça a l'air comme ça un peu gratuit. Mais c'est vrai que le voyage nous permet justement de nous ouvrir aux autres, aux autres cultures. Et franchement, quand j'étais à Mali Island, on parle des Fidji. J'avais qu'une envie, c'était de rester là, quoi. Parce que justement, on revient un peu, au premier temps.
Et en même temps, je n'y crois pas deux secondes. C'est-à-dire que vous restez à un endroit sans faire grand-chose, bizarrement, j'y crois pas.
pas complètement faux.
Ça vous arrive de ne rien faire? Vous faites quoi quand vous reposez, par exemple? À part vous ennuyer, vous faites quoi?
Je lis, et puis je lis, et je joue au foot.
Et la prochaine...
En fait, j'aurais rêvé d'être footballeur professionnel.
Bah, on sait jamais, hein.
J'ai raté ma vie.
Vous savez, tout est possible. La prochaine destination, c'est quoi?
Japon. Le Japon, après Colombie, Canada... Et puis, je sais pas.
Mais les images sont très très belles aussi parce que.
Parce que j'aime l'image. Et j'aime que l'image ait du sens. Et je me lève le matin avant le lever du soleil et je me couche très largement après le coucher du soleil. Vous connaissez cette expression entre chien et loup? C'est un moment assez extraordinaire. C'est le moment où les animaux du jour vont dormir et le moment où les animaux sauvages sortent, les lions, etc. C'est dans la savane, c'est formidable. J'étais au Botswana, c'est chou. J'ai encore des frissons tellement c'était beau. C'est ce moment-là que j'adore. Moi, c'est ces moments qui sont comme ça. Voilà, la lumière est juste magique, quoi.
Eh ben, on n'a plus qu'à allumer les réverbères, tiens.
Pied dans le réverbère, un homme assis au soleil couchant, s'assoupit. Il avait tout ce jour essuyé la poussière de ce réverbère. Voilà qui s'endort au son des claquetis de la pluie sur les dalles de béton clair. Le voilà qui s'installe. L'homme vieillit contre ce réverbère. Il
Bobby Lapointe et Karina avaient une fille. En tout cas, elle les adore et il l'inspire. C'était Laura Ken, Réverbère.
Dans quel monde on vit ? L'été, sur France Inter.
Mais Eh oui, dans quel monde êtes-vous? L'été, où êtes-vous? Que faites-vous? Appelez-nous au 01 56 40 55 35 et dites-le-nous. Racontez-nous vos souvenirs d'été particulier, un coup de foudre, des retrouvailles, des paysages spectaculaires, un peu comme la Réunion ou les Fidji. On prend tout parce qu'on adore ça.
Bonjour, je suis Marie-Martine, j'ai 63 ans, un mari attentionné, 3 enfants et 2 petites filles et j'habite Grenoble. J'ai passé ma vie professionnelle dans un service de néonatologie où je m'occupais avec bonheur de tout petits prématurés. Mais j'ai bien d'autres passions parmi lesquelles les voyages et la musique. Entre autres, je chante et je joue de la guitare. Et il y a une vingtaine d'années, nous avons embarqué sur un ferry avec mon mari et mes enfants à Roscoff pour une traversée de nuit vers Cork en Irlande. On avait vraiment envie de découvrir ce pays dont nous adorons la musique. Après notre installation, je suis montée sur le pont du bateau, attirée par de la musique celtique. Je suis tombée sur un groupe de jeunes qui chantaient, accompagnés de leurs instruments que je connaissais bien, traditionnels, guitare, violon, baudrane, accordéon diatonique. Tout ça dans une ambiance de ouf, chaleureuse, bon enfant et où la bière coulait à flot. Je reconnaissais plein de chansons de musique celtique et ce fut un grand bonheur de les écouter, de les chanter avec eux toute la nuit. Une soirée mais de malade. Quand les côtes irlandaises apparurent à l'horizon, alors que le jour se levait dans un beau camaïeu de rose, les jeunes ont commencé à ranger tranquillement leurs instruments et moi, direct, je suis allée vers eux pour les remercier et leur conseiller de monter un groupe tellement je les trouvais top. Et là, avec un sourire de connivence, l'un d'eux me dit qu'ils étaient les Dubliners. Eh ben, je venais de passer, sans le savoir, la plus délicieuse des nuits musicales avec l'un des groupes de folk les plus réputés d'Irlande. On les a revus depuis sur scène, en France, mais le plus beau concert pour moi reste celui entendu au milieu de l'océan par une douce nuit d'été 1997. Bel été à tous, je vous embrasse.
Merci Marie-Martine, on y était. Hein. Bel été à vous aussi. Est-ce qu'il y a encore un endroit au monde où vous n'êtes pas encore allé et que vous rêveriez de découvrir, Morad Aitabouche?
Une terre inconnue, ouais. La lune.
Mais sinon, vous avez tout vu.
Non, je crois que je suis à peu près à 140 pays.
Oh, c'est pas mal.
C'est pas mal, ouais.
Moi, je suis à 153, donc ça m'impressionne pas plus que ça. Mais...
Vous êtes allé... Non, franchement, vous êtes allé aux îles Cook, aux îles Marshall?
Ben, j'y vais demain, en fait. Je pars... Alors après, je fais 9h, il y a 10h.
J'adorerais aller là-bas. J'adorerais aller là-bas. Non, mais c'est vrai.
Mais pourquoi?
Je sais pas. L'inconnu, je sais pas, il y a que, les gens probablement retrouver peut-être les révoltés du Bounty,
c'est
Vahiné.
C'est ça.
Non, j'adore l'inconnu et j'adore l'idée d'aller dans un endroit au milieu de nulle part.
Là on où il y a quand même des Vahinés.
Là on est au milieu du Sud Pacifique et il y a des Vahinés.
Si on regarde dans votre rétroviseur, en revanche, on retrouve votre été particulier et un objet qui y est attaché. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet objet-là, nous raconter d'où il vient?
Oh, c'est une fiole.
Vous l'avez là dans les mains, hein?
Oui, je l'ai dans les mains, c'est une fiole. D'ailleurs, je vais ouvrir le flacon. Et on va faire quelque chose qui ne se voit pas à la radio, mais qui est formidable.
D'accord.
Allez-y, goûtez.
Ah non, mais ça va pas.
Mais si.
Oh putain, pardon. Non, pardon, excusez-moi pour la grossièreté, mais vraiment, c'est très très fort. Je peux pas du tout boire ça, je vais décéder, je vais me brûler de l'intérieur.
C'est de la Slivovitz, 75 ou 80 degrés. Ça dépend des Serbes qui fabriquent cette espèce de cocktail. Prune, pomme, on sait pas trop.
C'est pas trop ce qu'il y a.
Un petit arrière-goût de pomme, paraît-il.
Il y en a aussi. C'est pas sûr. Alors, elle est jolie cette fiole en plus. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît?
En fait, c'est une fiole d'inspiration orthodoxe et qui m'avait été offerte par Radovan Karadzic.
C'est tout de suite très chic.
Radovan Karadzic, qui était un sale type, qui présidait la République des Serbes de Bosnie, qui a massacré 8000 musulmans à Srebrenica. Et il se trouve qu'à l'époque où Radovan Karadzic était recherché par toutes les polices du monde et les militaires, je l'avais rencontré, moi avec mon physique. Je m'appelle Morad. J'avais passé du temps avec Karadzic, Mladic, tous ces bourreaux. Et voilà, c'était un été 95 et ça a été le début d'une histoire avec Srebrenica, avec un commissaire qui s'appelle Jean-René Ruez. Et j'ai fait.
Mais on se dit quoi quand on parle avec ces bourreaux et qu'ils nous offrent un cadeau, par exemple?
C'est difficile. C'est délicat parce qu'en même temps, quand j'ai fait par exemple le portrait de Marine Le Pen pour Envoyé spécial il y a quelques années, on est toujours un peu dans la duplicité, c'est-à-dire qu'il faut obtenir. Ouais. On est journaliste, donc voilà, il faut obtenir des témoignages, il faut obtenir des choses. Et ben là, c'est un peu la même chose. Et moi, j'ai toujours aimé aller vers ceux que je ne comprends pas, que j'ai du mal à saisir. Mmh. Et là, en l'occurrence, les Serbes, j'avais envie de comprendre ce qui motivait tous ces massacres gratuits.
Et cette fiole, elle représente quoi pour vous ? Elle représente votre passé, ou votre CV plutôt, de reporter de guerre, elle représente quoi ?
Non, c'est simplement un moment de ma vie un peu incroyable, ouais. Qui était une rencontre avec un sale type, parce que paradoxalement, ça a été un joli coup, puisque tout le monde recherchait ce salopard. Pardon.
Décidément, ce matin, on n'est plus à ça près. Hein. Voilà. Excusez-nous. Pardon.
Tout le monde le recherchait et je l'ai trouvé. Donc, c'est paradoxal parce qu'en même temps, je faisais un joli coup et je donnais la parole à quelqu'un qui se moquait des Nations Unies, qui se moquait de la communauté internationale parce qu'il n'était pas arrêté, qu'il disait qu'il était chez lui, qu'il allait où il voulait, quand il voulait.
Eh bien, merci beaucoup, Mourad Aitabouch, pour ce paradoxe, pour ce souvenir d'été, pour cette fiole, pour vos films aussi qui seront diffusés sur France 5 mardi prochain et mardi 8 août à 20h50. Toutes les références, bien sûr, sur notre page sur franceinter.fr. Je vous souhaite un très très bel été.
À vous aussi, merci beaucoup.
Vous revenez quand vous voulez. Et vous restez sur l'antenne de France Inter, du Beau Monde dans une dizaine de minutes, très exactement Gainsbourg qui fait son cinéma en chanson dans Ciné qui chante.